France Culture.
Et on ne baisse pas la garde, les midis continuent à 13h. Je recevrai la plasticienne Autobong Kanga. Mais tout de suite, c'est le moment du Point Culture avec Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Alors où en est-on de la parité femmes-hommes dans le milieu de l'art contemporain? Si l'on voit de plus en plus d'initiatives pour que les femmes artistes soient connues, exposées et vendues, les chiffres, eux, ne sont pas encore à la hauteur. Le ministère de la Culture annonce que la parité devrait être atteinte en 2146. On a encore un petit peu de temps. Alors le long chemin des femmes artistes, c'est le dossier du Point Culture du jour. Anne Bourassé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire d'exposition et critique d'art et vous venez de faire paraître au Seuil un essai qui s'appelle « Les refusés, les femmes artistes n'existent pas », ouvrage qui propose un état des lieux des inégalités de genre dans l'art contemporain en France. Et alors les chiffres que vous avancez sont sidérants. 70% des étudiants en école d'art sont des femmes, mais elles ne représentent après que 23% des artistes exposés dans les galeries et 6% des artistes dans les collections muséales. Comment expliquez-vous ce gap?
Alors c'est vrai qu'il est vertigineux. Moi j'ai fait mes études à l'école des arts décoratifs de Paris et on était en majorité des femmes et donc la question se posait pas vraiment à ce moment-là. En tout cas on n'en avait pas conscience. Et puis c'est vrai que en sortant de l'école, dans l'insertion professionnelle, on se rend compte que les discriminations sont extrêmement présentes et en fait je me suis mise à compter. Moi ces chiffres ils sont vertigineux. J'ai compté, c'est devenu une obsession parce que je voyais bien qu'on n'avait pas de réalité statistique sur la situation. Et c'est vraiment, il y a un autre chiffre en fait qui a été déterminant dans l'écriture de ce livre. C'est un article que j'ai lu du ministère de la Culture qui disait qu'il faudrait attendre 120 ans pour voir l'égalité de genre apparaître, donc 2146. Et à ce moment-là, je me suis dit, je serais morte, en fait, avant d'avoir vu l'égalité de genre dans l'art. Et ça m'a paru impossible, et moi-même, je vivais énormément de ces discriminations, et donc c'est en 2019 que j'ai décidé d'agir avec toute une horde, meute, collectif de travailleuses de l'art en créant une association qui s'appelle Contemporaine.
Il y a un autre chiffre aussi que vous citez qui me semble important et parce que ces inégalités de genre, c'est aussi des questions d'échelle et des questions économiques. Vous dites 85% des hauts revenus dans l'art sont pour les hommes.
Oui, et ça, il y a énormément de rapports en fait sur ces sujets-là. Il faut imaginer qu'en Île-de-France, les revenus des artistes femmes, ça va jusqu'à moins 43%. Alors que dans le reste de la société, on est à 24% d'écart entre les revenus des femmes et des hommes. Donc c'est vraiment un gouffre. Il y a une très bonne étude de Paturo et Siniglia qui est sortie et qui parle également du fait qu'ils ont fait des statistiques sur par rapport au chiffre de la Maison des Artistes. Aujourd'hui, une femme, elle vend sa première œuvre 3 ans après un artiste homme. Et aussi, il y a tout un phénomène dans les maisons de vente aux enchères qu'on appelle le gender gap, le rabais du genre, où on va en fait estimer et vendre des œuvres des artistes femmes 30% de moins que les hommes. Donc en fait, on voit que les inégalités économiques, elles se situent à plein d'endroits, sur les revenus, dans les marchés, dans les ventes, dans les acquisitions des musées. Donc il y a une discrimination massive dans le marché du travail pour les artistes femmes et issues de minorités de genre.
Alors, pour démontrer votre thèse, vous vous basez dans ce livre-là sur des binômes d'artistes. Alors, par exemple, j'en prends un. Vous parlez de Caravage et d'Artemisia Gentileschi, dont on a pu voir d'ailleurs une exposition il n'y a pas si longtemps à Paris. Comment cette histoire-là, ce binôme-là, éclaire celle des artistes femmes aujourd'hui, selon vous?
En fait, ce livre, il se construit effectivement sur ces binômes. Puisqu'en fait, souvent, on connaît très bien l'artiste homme, mais on connaît beaucoup moins bien l'artiste femme. Et d'ailleurs, après, je développe sur des collectifs d'artistes et des artistes non-binaires. Donc, par exemple, des binômes comme Rosa Bonheur versus Eugène Delacroix. Souvent, vous connaissez Pollock, mais vous connaissez pas Sobel. Vous connaissez peut-être aussi Carl André, vous connaissez moins Anna Mendetta, ou l'inverse. En tout cas, rares sont les personnes qui connaissent Hélène Berthaud alors que tout le monde connaît Auguste Rodin. Donc ces binômes d'artistes par chapitre, ils nous permettent d'entrer dans des trajectoires et de comprendre en fait où se sont situées ces inégalités. Chaque chapitre illustre, disons, un grand obstacle dans la carrière des artistes femmes et issues de minorités de genre, mais aussi explore les discriminations de genre, de race et de classe. Dans le cas du chapitre sur Artemisia Gentileschi, j'explore notamment le fait qu'Artemisia, à son époque, autour de la Renaissance, elle est extrêmement connue, c'est une star. C'est une star du milieu de l'art, elle va avoir une carrière internationale, elle va beaucoup se déplacer. Et donc, on voit bien que ce nom, moi, je ne l'ai jamais eu dans mes cours d'histoire de l'art. J'ai fait 10 années d'études en histoire de l'art et jamais on a prononcé son nom. Donc, en fait, on voit bien que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une réécriture au fur et à mesure de l'histoire de l'art qui a complètement effacé, qui a complètement refusé ces artistes et qui aujourd'hui est toujours les manuels d'histoire qui sont recommandés à la bibliographie des étudiants en école d'art.
Alors on entend bien ce que vous dites Anne Bourassé et les chiffres que vous avancez voilà, sont implacables. Pourtant, on peut dire que ces dernières années, il y a une politique volontariste de la part des institutions, voire de la part de l'État pour mettre en avant les femmes artistes. Donc est-ce que vous dites là aujourd'hui qu'elles sont inefficaces ?
Je dirais pas inefficaces parce qu'il y a il se passe des choses très belles et il y a des bonnes avancées, il y a des bonnes énergies aussi. Seulement, c'est pas suffisant. Et souvent, ça masque quand même des discriminations beaucoup plus profondes. Je pense par exemple c'est un peu un phénomène de parité dysfonctionnelle. C'est-à-dire que par exemple, on va bien, dans les commissions d'acquisition pour les musées, faire entrer des œuvres dans les collections, nos collections françaises. On va acheter autant d'œuvres de femmes que d'hommes. Pourtant, on va acheter les femmes moins chères. Donc, les discriminations, elles se situent dans des espaces très insidieux. Il y a aussi le fait que ça allait mieux. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a eu aussi avec la vague MeToo. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de revenir en arrière et qui refusent de faire cette introspection. On a cette image, en fait, d'un milieu de l'art qui est un milieu avant-gardiste, qui est un milieu d'intellectuel, qui est un milieu de pensée et qui est en avance sur son temps. C'est un peu comme si le dossier du féminisme, il était déjà clos et plié au bout du bureau.
Peut-être en conclusion, puisque vous avez prononcé plusieurs fois, vous dites que le MeToo de l'art contemporain n'a pas encore éclaté. C'est parmi vos derniers mots dans ce livre-là. Est-ce que justement cet ouvrage est une façon de lancer le mouvement ?
Alors, heureusement, le mouvement, il a déjà été amorcé. Il y a eu notamment énormément d'affaires qui ont éclos dans les écoles d'art françaises à partir de 2020. C'est encore très timide. Il y a eu récemment une liste qui a été diffusée d'agresseurs pendant l'événement de Art Basel à Paris, qui est la plus grande foire internationale d'art contemporain sur le territoire. C'est un milieu qui est régi par des systèmes de domination importants, notamment le fait que beaucoup d'artistes dépendent des galeries pour leur survie économique. Et donc, difficile en fait de dénoncer quand on va fragiliser son système économique. Donc ce mouvement, il est encore timide et non, il n'a pas encore explosé. Et donc on voit bien qu'on est un impensé dans le milieu culturel et que même au niveau de l'opinion publique, on a beaucoup à travailler, on a beaucoup à faire pour sensibiliser les personnes au fait que nous aussi, on a un milieu avec des statuts précarisés, avec une économie et qui représente aujourd'hui, il faut le dire, 2% du PIB, plus que les transports, et qui a encore beaucoup à faire sur les questions de violence pour faire exploser la bulle.
Bien, merci beaucoup Anne Bourassé. Je rappelle que votre livre « Les refusés, les artistes femmes n'existent pas » vient de paraître au Seuil. Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, un député du Rassemblement National attaque le Festival des Transmusicales de Rennes.
Oui, le député RN de la Somme, Mathias Renaud, a déposé un amendement au projet de loi de finances de 2026. Il propose une baisse de 82 millions d'euros des aides versées. Mathias Renaud prend comme exemple l'association Transmusicale qui gère le Festival de musique éponyme en affirmant qu'il serait dédié aux artistes transgenres. Le festival créé à Rennes en 1979 tire pourtant son nom d'un disque de free jazz intitulé Transmusique concert à Paris, enregistré en 1978. N'ayant donc aucun rapport avec la communauté transgenre, le festival promeut depuis près d'un demi-siècle des artistes émergents francophones et étrangers.
Et pour finir, Marie, à Paris, le Centre Pompidou va devoir rendre un espace que lui prêtait le Grand Palais depuis quelques mois.
Oui, afin de permettre au Centre Pompidou de continuer à présenter des expositions, plusieurs lieux partenaires accueillent la programmation du musée durant ces 5 années de travaux. Parmi ces endroits, le Grand Palais a mis à disposition 2 espaces d'exposition, mais endetté à hauteur de 150 millions d'euros pour financer sa rénovation, le Grand Palais doit renflouer ses caisses. Dans ce contexte difficile, son président Didier Fusillé a donc récupéré, pour l'exploiter, un des 2 espaces. place. Et cette décision entraînera donc l'annulation d'une exposition de Pompidou prévue à l'automne prochain à l'occasion du bicentenaire de la photographie.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. À demain, en attendant, il est 13h, vous écoutez France Culture.